Du pain sur la table.
Dialogue autour de l'Évangile avec André Choquette
et Georges Convert.
Évangile de Jésus selon l'écrit de Matthieu, texte de la liturgie catholique pour le 13e dimanche.
Celui qui me préfère père ou mère ne vaut pas pour moi.
Celui qui me préfère fils ou fille ne vaut pas pour moi.
Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas ne vaut pas pour moi.
Qui trouve sa vie la perdra. Qui perd sa vie à cause de moi la trouvera.
Qui vous accueille m'accueille. Qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé.
Qui accueille un prophète en qualité de prophète recevra récompense de prophète.
Qui accueille un juste en qualité de juste recevra récompense de juste.
Qui donne à boire seulement un verre d'eau fraîche à un de ses petits en sa qualité de disciple, il n'y a pas de crainte qu'il perde sa récompense.
Chers auditeurs et auditrices, bonjour, bonjour André.
Bonjour Georges.
Voilà des phrases toutes simples, mais qui sont peut-être pas toujours faciles à saisir, tant elles nous semblent ou bien invivable, ou bien insupportable. En effet, comment concilier l'humilité de Jésus avec cette prétention à un amour exclusif? Et comment devoir choisir la croix quand on veut suivre celui qui s'est dit le chemin de la vie? Mais regardons d'abord où se trouve notre texte. Il est dans le chapitre de Matthieu qui nous décrit ce que c'est qu'être disciple de Jésus. Pour bien saisir ce qu'est le disciple de Jésus, il y a, j'allais dire, comme une ligne directrice qu'il ne faut pas oublier, une sorte de chaîne qui relie le disciple à Jésus, Jésus au Père divin. Un proverbe rabbinique dit « l'envoyé est comme celui qui l'envoie ». Eh bien, ce qui est dit de Jésus doit donc se comprendre en pensant au Père, et ce qui est dit du disciple doit se comprendre en pensant à Jésus et au Père.
Qui me préfère, père ou mère?
Oui, le texte grec dit « qui affectionne plus que moi ». Il s'agit ici de l'amitié et non pas de cet amour charité, amour bonté, qui est un amour plus volontaire. Il s'agit là d'un amour naturel que l'on porte spontanément à ceux pour qui on a de la sympathie, soit à cause des affinités de sang ou à cause des sentiments que l'on éprouve envers cette personne. Jésus ne veut certainement pas nous dire que ces liens sont mauvais. Le décalogue juif ne dit-il pas « honore père et mère » Nos parents sont en effet le symbole de l'essentiel de la vie, car vivre, c'est d'abord recevoir la vie, accueillir l'amour. Nous ne sommes pas en effet le produit d'un travail, nous ne sommes pas un objet de consommation, nous sommes le fruit d'un don. Nous ne sommes pas d'ailleurs davantage le décideur de notre propre existence, nous n'avons pas choisi de naître à ce monde. Aussi, personne ne devient vraiment adulte qu'en acceptant d'être comme un don au monde. Mais, d'autre part, ceux qui nous ont engendrés ne sont eux-mêmes que des relais de l'unique engendreur, de la seule véritable source créatrice de la vie qui est Dieu. Et Jésus le rappelle souvent en disant
« Vous n'appellerez personne du nom de Père sur la terre, car vous n'en avez qu'un seul, le Père des cieux. »
C'est pourquoi notre affection envers Père et Mère ne peut être pleinement vraie que si elle nous renvoie à la paternité source. Nous ne saurons porter un véritable amour gratuit à nos parents que si nous les aimons de cet amour qui prend son modèle et sa force dans la relation intime avec le Père, le seul qui est Père, le Père divin. Eux comme nous, nos parents, sont aimés, nous sommes aimés du Père éternel, et cela d'un amour parfait. Quand un jeune choisit son métier, sa vocation, ses parents ne sont pas toujours d'accord avec le choix. Mais si le jeune se prend en main, s'il fait un choix qui le rend libre, son amour envers ses parents va aussi devenir plus libre et plus vrai. Jésus, parce qu'il est l'image parfaite de son Père, parce qu'il agit comme le Père, est pour nous le rappel visible de l'amour de ce Père que nous ne voyons pas. Dans notre relation avec lui, Jésus est celui qui nous renvoie constamment au Père. Ne me préfère pas Père et Mère, mais découvre en moi l'amour infini dont le Père t'aime.
Qui me préfère, fils ou fille ?
Jésus aime trop les enfants pour qu'on puisse interpréter cette phrase comme s'il fallait sacrifier l'amour de ses enfants pour un amour religieux envers un Dieu jaloux. Engendrer, est-ce que ce n'est pas une expérience forte d'ailleurs qui nous rapproche de Dieu qui est le seul engendreur ? Mettre au monde un fils ou une fille, c'est transmettre la vie, c'est redonner gratuitement cette vie qui nous a été donnée et transmise. Aimer son enfant, c'est donc aussi partager l'expérience d'amour de Dieu le Père, condition bien sûr d'aimer notre enfant en vérité, c'est-à-dire de l'aimer libre, sans chercher à le posséder. Le vouloir libre, sans jamais se l'attacher, en le subordonnant à notre vouloir. On connaît ce très beau texte de Khalil Gibran, dans le prophète.
Vos enfants ne sont pas vos enfants. Ils sont les fils et les filles de l'appel de la vie à elle-même. Ils viennent à travers vous, mais non de vous. Ils ne vous appartiennent pas. Vous pouvez leur donner votre amour, mais non point vos pensées, car ils ont leurs propres pensées.
Oui, en aimant de cette manière toute gratuite, eh bien nous imitons Jésus, qui imite le Père. Ne me préfère pas fils ou fille, mais découvre en moi l'amour inconditionnel dont Dieu aime chaque humain pour en faire son frère, et c'est comme ça d'ailleurs que tu aimeras ton fils ou ta fille.
Celui qui ne prend pas sa croix.
Suivre Jésus, c'est être son disciple. Et suivre Jésus suppose d'accepter la croix. Je ne pense pas qu'il s'agisse ici de ce que nous appelons nos petites croix quotidiennes, les petits ennuis de santé, les contradictions au travail, les soucis des enfants. Mais il s'agit de cette manière d'aimer qui est propre à Dieu. Aimer même son ennemi. Aimer jusqu'au pardon. Un amour qui nous conduit à aimer jusqu'au don de notre propre vie. Dans les conflits, et tout spécialement ceux que nous pouvons vivre avec les plus proches, il s'agit d'aimer jusqu'au pardon, parfois en exposant sa vie. Cela peut se vivre malheureusement à l'intérieur de la famille, à l'intérieur du couple, comme une trahison entre époux, un fils ou une fille adulte qui nous vole, un frère, une sœur qui salisse notre réputation. Cela peut arriver aussi entre amis. Pensons à ces jeunes nazis qui faisaient passer l'idéologie avant les liens d'amitié et qui pouvaient aller jusqu'à dénoncer et à faire arrêter celui qui était leur meilleur ami. Cela peut arriver au travail, lorsque la collaboration s'avère difficile avec quelqu'un qui ne pense qu'à lui et qui est prêt à tout pour son avancement, même à nous passer dessus. Prendre sa croix, c'est aimer l'autre jusqu'au pardon. Prendre sa croix, c'est de refuser, de laisser monter la haine en nous. Prendre sa croix, c'est garder la sérénité dans cette relation, chercher à comprendre ce qui fait agir l'autre, au lieu de faire du ressentiment, de chercher à nous venger. Prendre sa croix, c'est parvenir à parler à celui qui nous a fait mal, en faisant appel au meilleur de lui-même. Et s'il faut aller jusqu'à ce point ultime, eh bien l'amour qui vient de Dieu nous conduira à choisir de livrer notre propre vie à la haine destructrice de l'autre, dans l'espérance que l'amour puisse guérir celui qui nous hait. Oh, certes, ce pardon n'est jamais facile. Il sera parfois même héroïque. On en a dans l'histoire de l'humanité quelques exemples. le père Kolb, Maria Goretti et d'autres. Et le plus grand modèle, c'est Jésus. Ce pardon est de source divine et il ne peut se vivre qu'en communion avec Dieu. C'est vrai que parfois, il faudra du temps pour parvenir à pardonner, tellement notre sensibilité s'y refuse. Dieu ne veut pas et ne peut pas nous changer, changer notre sensibilité au forcing, sans respecter notre rythme. L'important est de ne pas se refuser à cette lente conversion de notre sensibilité, de ne pas nous ancrer dans le refus du pardon. Voilà l'enseignement et la pratique de Jésus. À cause de lui, comme lui, le disciple doit s'attendre à voir son amour rejeté. Ne me préfère pas ta sécurité en sacrifiant l'amour, mais découvre en moi l'amour véritable qui seul peut sauver ton cœur, qui seul peut sauver ta vie.
Qui perd sa vie sur la croix la trouve.
Oui, car il trouve l'amour qui est le vrai amour, l'amour qui fait vivre éternellement. Il ne s'agit pas là, dans ce que nous dit Jésus, de mépriser la vie comme si elle n'avait aucune valeur. Il s'agit au contraire de trouver la véritable vie, la vie qui est pleinement humaine, car elle est trempée dans l'amour et puise sa source en Dieu. Mais, inversement, si, pour garder notre moi, nous limitons notre amour à notre père ou à notre mère, à notre fils ou à notre fille, à nos amis, si nous n'aimons que d'un amour conditionnel, si notre amour se refuse d'aller jusqu'au pardon, alors c'est que nous n'avons pas encore trouvé la source de la vraie vie, ou bien que nous l'avons perdue. C'est que nous ne sommes pas encore le disciple de Jésus. C'est que nous ne sommes pas encore le fils, la fille du Père divin.
Moi je vous dis, aimez vos ennemis, pour être vraiment les fils de votre Père des cieux. Qui accueille un prophète, un juste, un de ses petits?
Oui, alors qui sont ces gens, les prophètes, les justes? Certains spécialistes pensent qu'on énumère ici des gens qui, plus tard, auront des fonctions dans les premières communautés chrétiennes. Et alors, ils pensent que ce texte évangélique a été remanié après Pâques. En effet, Jésus ne peut pas parler de ce qui va se passer après sa mort, il n'aurait pas été compris. Cette chose-là n'est pas impossible, mais on peut aussi y voir, les prophètes, les justes, des vocations ou des fonctions qui existaient dans les communautés juives. Ailleurs, dans l'Évangile, on voit que Jésus parle des prophètes et des justes.
Beaucoup de prophètes, beaucoup de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Mais vous, heureux, vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Malheureux, scribes et pharisiens hypocrites, vous qui bâtissez les sépulcres des prophètes et décorez les tombeaux des justes.
Prophètes et justes, est-ce que cela ne fait pas référence aux deux grandes divisions des écrits bibliques, la Torah et les prophètes? Les justes sont ceux qui sont fidèles aux préceptes, aux directives de la Torah de Dieu, qui est la règle de vie de l'Alliance. Les prophètes, ce sont ceux qui rappellent au peuple l'esprit de ses préceptes, l'esprit de l'Alliance, un esprit qui doit toujours nous inspirer pour appliquer vraiment les directives de la règle et pour pas en faire une application à la lettre, sans âme. Appliquer la lettre de la règle, appliquer plutôt à la lettre la règle, cela fausse la règle si on n'en connaît plus l'esprit. Eh bien, ces deux vocations du peuple de Dieu, la prophétie et la juste fidélité à l'Alliance avec Dieu, sont des vocations qui sont toujours nécessaires et fructueuses, à condition que ceux qui les vivent n'en tirent pas orgueil, ne cherchent pas à en retirer des dividendes auprès de Dieu, ne pensent pas que cela leur fait mériter la reconnaissance de Dieu, car alors ceux-là auront reçu leur récompense. Tels étaient parfois, et peut-être souvent, les disciples des pharisiens ou des esséniens ou des baptistes. Jésus nous dit que tels ne doivent pas être ses disciples. Jésus n'a pas recruté ses disciples d'abord dans les milieux cultivés, dans les confréries pieuses. Il n'y a pas d'élèves de rabbins parmi eux. Les écoles rabbiniques se trouvaient à Jérusalem et non pas en Galilée. Nathanaël disait déjà « De la Galilée peut-il sortir quelque chose de bon, ce Nathanaël qui était lui un étudiant des écrits bibliques ?» Ailleurs, on trouve aussi cette remarque des chefs juifs à propos de Jésus.
« Parmi les notables ou les pharisiens, en est-il un qui ait cru en lui ? Il n'y a que cette masse qui ne connaît pas la Torah, des gens maudits. »
Oui, les disciples de Jésus sont des petits, des gens simples, qui n'ont pas été aux écoles, des synagogues. Ils ne peuvent donc pas tirer mérite de leur observation de la Torah et se considérer comme des justes. Ils ne peuvent pas non plus se prétendre des prophètes, des gens dénonçant le péché des responsables. Eh bien, ceux qui accueilleront ces petits ne pourront pas espérer de récompense pour leur geste d'accueil. Une récompense comme celle qu'on pouvait espérer de l'accueil d'un prophète ou d'un juste. En effet, dans la pensée biblique, l'accueil est toujours récompensé et permet de devenir comme celui qu'on accueille. On accueille un juste, on devient comme lui. On accueille un prophète, on devient comme lui. Nous avions un vieux dicton qui s'assemble, se ressemble. Jésus, lui, va étonner en disant que celui qui accueille un petit, un humble, ne devient pas forcément comme ce petit et cet humble, mais bien plus, c'est lui-même Jésus qui l'accueille, et alors il va devenir comme Jésus.
Recevoir celui que j'enverrai, c'est me recevoir moi-même. Et me recevoir, c'est aussi recevoir celui qui m'a envoyé. Qui accueille en mon nom un enfant, m'accueille moi-même.
Pourquoi cette assimilation de Jésus aux petits, aux simples, aux pauvres? Mais peut-être parce qu'il s'agit là encore du visage que Jésus a de Dieu. Dieu est celui qui aime inconditionnellement, gratuitement, sans écart, au titre, aux qualités des personnes. Si recevoir quelqu'un, c'est recevoir ce qu'il représente, un notable, un juste, un prophète, on ne reçoit Dieu que lorsqu'on reçoit quelqu'un qui le représente, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a aucun titre qui puisse mériter considération et amour. On ne reçoit Dieu que lorsque notre accueil est gratuit, inconditionnel. On ne nourrit Dieu que lorsqu'on invite à sa table celui qui a faim et qui ne pourra pas nous rendre notre invitation. On ne visite Dieu que lorsque l'on va voir le malade ou le prisonnier qui ne sauront nous rendre la politesse de notre visite. On ne vaît Dieu que lorsqu'on donne un vêtement à celui qui est nu et ne peut nous récompenser de notre geste. C'est là l'enseignement de la parabole du jugement dernier en Matthieu 25. D'autre part, ces humbles, ces petits, nous aident à être vrais. Les gens simples ne comprennent vraiment l'Évangile que lorsqu'ils voient ce que cela veut dire concrètement dans leur vie de chaque jour. Les gens plus instruits risquent parfois de s'illusionner en croyant vivre l'Évangile, ou bien parce qu'ils en parlent bien, ou bien parce qu'ils le comprennent intellectuellement. Récemment, un ami qui ne fréquente pas l'Église nous racontait simplement ce petit fait vécu.
« Je regardais mon baseball, me disait-il, quand on a frappé à la porte. » C'était ma voisine qui me demandait de conduire sa fille à l'hôpital. J'ai lâché la partie de baseball et nous sommes allés à l'urgence.
Eh bien, son geste nous fait comprendre pourquoi Jésus parle d'attitudes toutes simples, comme étant les attitudes décisives dans notre relation à Dieu et aux autres. Qui ne peut en effet partager un verre d'eau? Qui ne peut rendre visite à un malade? Cette attitude, Jésus nous dit qu'elle est celle même du Père. Dieu se vit dans ces petits gestes d'amour, car ils sont des gestes gratuits et ils sont donc des gestes vrais.
Quiconque donnera à boire ne serait-ce qu'un verre d'eau fraîche à l'un de ses petits en sa qualité de disciple, il n'y a pas de crainte qu'il perde sa récompense.
Alors voilà qu'on pourrait voir ici une certaine contradiction à ce que nous venons de dire, que Dieu, c'était justement l'amour gratuit qui ne cherche pas de récompense. Si le petit est le symbole de cet amour gratuit, comment Jésus peut-il nous parler encore de récompense? Mais il nous faut revenir au texte qui suit les Béatitudes. Jésus demande de prier, de jeûner, de partager avec le prochain, sans chercher des récompenses, ni de la part des êtres humains, ni de la part de Dieu.
Que ta main gauche ignore ce que donne ta main droite. Ne prie pas afin d'être vu.
Mais au contraire, fais tout cela discrètement, dans le secret, sans rien chercher en retour.
Alors ton Père, qui voit ce qui est caché, te le rendra.
Il faut noter là le futur. Ta récompense viendra. Mais en son temps, au temps de Dieu, comme Dieu le voudra. Et elle viendra, puisqu'elle n'est pas prévue, elle viendra gratuitement, comme aura été gratuit ton geste. Elle viendra comme un don, et non pas comme un dû. Dieu, en effet, ne peut rien donner en échange de quelque chose, car Dieu ne peut donner que lui-même, que son amour. Dieu ne peut donner que de l'amour, et tout cela est pur don. Je pense qu'il est bien de reprendre ce vieux dicton québécois, « Quand tu donnes aux pauvres, tu prêtes à Dieu, et c'est la vie qui te le rendra. » Celui qui donne aux disciples de Jésus, qui est un petit, donne gratuitement, et il n'y a pas de crainte qu'il perde sa récompense. En effet, sa récompense n'est pas celle des humains, elle est celle de Dieu. Et Dieu ne peut être que fidèle. Mais il donnera toujours, au moment que l'on n'attend pas, de la manière que l'on n'attend pas, et il donnera sans mesure. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Voilà. Voilà la communauté que veut rassembler Jésus. Une communauté de gens qui s'aiment, non en raison de leur qualité et de leur mérite, mais une communauté de frères et de sœurs qui traitent chacune et chacun comme un être unique, qui aiment chacun avec cette qualité d'amour et d'attention qui s'apprend au contact de Dieu, au contact de Jésus. Ce style de communauté sera celui de Paul, comme on peut le conclure à partir de sa lettre aux Corinthiens.
Frères, considérez qui vous êtes, vous qui avez reçu l'appel de Dieu. Il n'y a pas parmi vous ni beaucoup de sages aux yeux du monde, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de gens de bonne famille. Mais ce qui est folie dans le monde, Dieu l'a choisi pour confondre les sages. Ce qui est faible dans le monde, Dieu l'a choisi pour confondre ce qui est fort.
Cela nous donne la caractéristique d'une communauté chrétienne. Une caractéristique qui est essentielle, aujourd'hui comme hier. Le petit, le pauvre, doit y avoir sa place, tout autant que la personne instruite et plus fortunée. Déjà au tout début de l'Église, la lettre de Jacques traitait de cette question.
S'il entre dans votre assemblée un homme aux bagues d'or magnifiquement vêtu, s'il entre aussi un pauvre vêtu de haillons, si vous vous intéressez à l'homme qui porte des vêtements magnifiques et lui dites « Toi, assis-toi à cette bonne place », et si vous dites au pauvre « Toi, tiens-toi debout », n'avez-vous pas fait une discrimination? N'est-ce pas Dieu qui a choisi ceux qui sont pauvres aux yeux du monde pour les rendre riches en foi et héritiers du royaume?
Dis-moi qui tu fréquentes, et je te dirai qui tu es. Ce dicton peut interroger chaque disciple de Jésus. Qui fréquentes-tu? Si tu ne côtoies jamais des gens simples, dis-toi que tu te prives d'une grande richesse. Si tu ne fréquentes ni l'immigrant dénué de tout, ni le malade chronique, ni la personne âgée solitaire, tu risques fort de ne pas rencontrer Jésus en vérité. Car toutes tes relations courent le grand danger d'être marquées du sceau de la rentabilité, et cela même inconsciemment. Et alors, tu serais loin de la gratuité, donc bien loin du Père divin. Cette gratuité, n'est-ce pas ce que pressentent bien des jeunes qui sont plongés dans le monde post-moderne, comme on dit, de la consommation et de la rentabilité, un monde où tout se paye et se mérite, jusqu'à la paralysie du don et de la spontanéité. Beaucoup de ces jeunes ne ressentent-ils pas, même inconsciemment, ce besoin de gratuité dans leur vie, qui les amène à trouver à tout prix le temps d'être bénévoles quelque part? Alors, parce qu'ils se seront donné des espaces de gratuité, ils ne perdront pas leur récompense. Ils trouveront le chemin de la liberté, le chemin qui seul mène à la joie et donc à la rencontre de Dieu.
C'était Du pain sur la table, une émission de l'École de la foi et du Catéchuménat de Montréal. Si vous désirez le texte de l'émission ou la cassette audio, téléphonez au numéro 514-254-8750.
Le numéro 514-254-8750. Vous pouvez aussi vous abonner pour 3 mois, pour 6 mois, pour 1 an. Vous nous trouverez également sur Internet. Téléphonez-nous, nous vous donnons l'adresse de notre site.
Du pain sur la table est diffusé le samedi à 8h30 et à 23h. Choix musical et enregistrement, Jean B. Duchaud.
Chers auditeurs et auditrices, revenez-nous la semaine prochaine et ne laissons pas le pain sur la table sans en faire notre nourriture.